Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, le rendez-vous des fans de Formule 1 avec les débriefs de tous les grands prix. Le paddock, c'est tous les lundis jusqu'à la fin de la saison. Je dis bien tous les lundis. Il s'est passé plein de choses cet été, notamment les Jeux Olympiques qui ont mobilisé la rédaction de RMC, les studios. Et c'était compliqué de vous fournir du contenu F1 toutes les semaines cet été. Mais on vous le promet, à partir de maintenant, un podcast tous les lundis sur les plateformes de téléchargement et sur rmc.fr. Comme les écuries de F1, ils reviennent aussi de leur pause estivale. Les ingénieurs du paddock RMC, Jean-Luc Roy, Louis Gerbier et Paul Lafitte. Salut les gars.
Salut Nico, salut à tous.
Ouais, salut à tous.
Vous m'avez salut manqué, Nico. Hein. Vous m'avez manqué hein, quand même. Hein. Là, je vous ai écouté de loin, vous avez été excellent. Franchement, c'était parfait ce paddock sans moi.
Alors, toi aussi, tu nous as manqué.
Bon bah ça tombe bien les gars, parce qu'on va lancer quand même le sprint final de cette saison de Formule 1. Il reste 9 courses désormais et c'était le retour de la F1 aux Pays-Bas ce week-end. Lando Norris a mis une gifle à Verstappen chez lui. Victoire impressionnante du Britannique sur sa McLaren. Il recolle au championnat, on va en parler. Il y a eu également une bonne surprise pour Charles Leclerc, des points pour Alpine et pour Pierre Gasly. Bref, il s'est passé plein de choses à Zandvoort. Le paddock RMC, c'est parti.
C'est le départ de ce Grand Prix, 72 tours à parcourir de ce tracé dans les dunes de Zandvoort. Le départ de Norris est bon a priori et non, Verstappen parvient à se glisser à l'intérieur. Verstappen vire en tête et bien voilà, la malédiction de Norris a frappé à nouveau.
On le sentait bien effectivement que la pression de Lando Norris sur le leader Verstappen se faisait de plus en plus terrible. Et bien là, l'attaque a été imparable au freinage de ce virage à droite effectivement qui avait tout à l'heure coûté la première place à Lando Norris, le poleman. Et bien là, il a récupéré son bien. Lando Norris est en train de creuser l'écart. Il est le seul d'ailleurs pilote à évoluer en moins d'une minute et 16 secondes. Il a creusé un écart de 5 secondes maintenant sur Verstappen, toujours deuxième. Le troisième, c'est toujours Charles Leclerc avec la Ferrari qui se défend des attaques de Piastri, quatrième. Oui, nous sommes dans le 63e des 72 tours. C'est Lando Norris avec sa McLaren, le poleman est toujours leader avec un écart qu'il creuse maintenant à plus de 17 secondes sur le deuxième. Et voilà Norris qui met le panache en plus. Il décroche le meilleur tour en course. Ça, c'est bien joué. Lando Norris, donc vainqueur de ce Grand Prix de Hollande. Max Verstappen qui termine deuxième va lui prendre 18 points. Ça va lui faire 295 points. Leclerc, il est parvenu à terminer troisième de ce Grand Prix. Les mêmes remontées dans les roues de Verstappen à 2 secondes 4 exactement. Voilà pour ce Grand Prix de Hollande et qui signe vraiment la domination des McLaren, il faut bien
le
dire.
Le paddock RMC.
On l'a entendu avec la voix de Jean-Luc pour la première fois depuis le retour de la Formule 1 à Zandvoort aux Pays-Bas. Verstappen est tombé chez lui. Victoire de Lando Norris, impressionnante. C'est sa deuxième victoire en Formule 1. Pole position, victoire en course, meilleur tour, le hat-trick pour le pilote McLaren. Je vous donne le classement de la course, les gars, et les chiffres des différents championnats. On va faire le point sur tout ça. Du coup, victoire de Norris avec quasiment 23 secondes d'avance sur Verstappen. Leclerc sur le podium, on s'y attendait pas, on va en reparler, bien évidemment. Oscar Piastri, qui peut avoir des regrets, termine quatrième. Carlos Sainz, coéquipier de Leclerc chez Ferrari, cinquième. Sergio Perez, sixième. Déception pour les Mercedes de Russell et Hamilton, 7e et 8e. Pierre Gasly, 9e. Marc Despins pour Alpine. Et Fernando Alonso arrive à grappiller un petit point pour Aston Martin. Du coup, au classement des pilotes, ça commence à devenir intéressant. Tout ça puisque Verstappen n'a plus que 70 points d'avance sur Lando Norris. Charles Leclerc est à 33 points de Norris. Et derrière, il y a un tir groupé entre Piastri, Sainz, Lewis Hamilton qui se tiennent en 25 petits points. Donc ça va être ultra serré sur cette fin de saison. Et surtout, au classement des constructeurs, 30 points de retard seulement sur McLaren, à 30 points de retard sur Red Bull seulement, et Ferrari est à 64 points de Red Bull. Donc vraiment, au niveau des constructeurs, c'est extrêmement serré. Jean-Luc, on va revenir sur la course que tu as commentée et sur ce succès de Norris qui a été en démonstration, à part sur son départ là où il se loupe un petit peu. Il met une vraie claque à Verstappen, hein.
C'est clair, une paire de claques même, il y a un aller en retour. Écoute, bon, effectivement, le départ, alors on l'évoquait en antenne il y a un instant, je sais que vous y attendez, moi je déplore toujours un petit peu que ça dépende des systèmes de lancement et non pas des pilotes, puisque Lando Norris lui-même a dit « bon, moi je suis bon, mais je ne suis pas très bon, le meilleur c'est Piastri au niveau du départ », et lui aussi s'est fait piéger. Donc c'est un peu dommage que la responsabilité là aussi des pilotes au niveau du départ, bon, il y a bien d'autres secteurs de la course où c'est le cas, mais ne soit plus totalement engagé. Bref, il se fait devancer au moment du départ. Je parlais de malédiction, bah c'est le cas, hein, parce que ça fait quand même un paquet de fois qu'il a la pole, 6 je crois au total avec les deux sprints, et qu'il se fait devancer à la fin du premier tour en tout cas. Mais il a remis les choses dans l'ordre parce qu'il dispose, et de très loin, de la meilleure monoplace. Et je crois que c'est ce qui a été dur, enfin il l'a constaté. Il était sans grandes illusions, Verstappen, parce que j'insiste toujours là-dessus une nouvelle fois, c'est quand même lui un pilote absolu, les autres aussi, mais c'est un pilote tout à fait exceptionnel. Donc qu'il ne parvienne pas, même en étant devant, déjà creuser l'écart, ce que Lando a avoué après, il a compris que comme il ne partait pas, eh bien, il avait vraiment la meilleure monoplace. En fait, il l'a passé où et quand il a voulu, en gros, au 18e tour, et puis la course était jouée. Donc là, je pense que Verstappen, maintenant, il va gérer, et comme tu l'évoquais en ouverture, bah oui, ça nous ménage un superbe suspense pour les 9 derniers Grands Prix.
Oui, parce que bah, déjà, on va aller direct sur ce terrain-là. 70 points de retard seulement pour Norris. Il reste 9 courses. C'est-à-dire, Louis, je crois que si Norris gagne tous les Grands Prix et que Verstappen finit deuxième à toutes les courses, il faudra que Norris aille chercher des points du meilleur tour pour réussir à être champion du monde. Mais malgré tout, est-ce que ça relance clairement le suspense là, sur cette fin de saison pour toi ?
Oui, ça relance complètement. Je crois qu'il y a aussi 2 ou 3 courses sprint qui peuvent ramener quelques points. Donc il y a clairement la place pour cette fin de saison. C'est donc un suspense relancé d'une certaine manière, mais d'une autre, il a gagné avec plus de 22 secondes d'avance. Donc est-ce que les courses auront un suspense ? On ne sait pas trop non plus. Tu vois, ça se trouve, on va s'ennuyer dans chaque course.
Toi, tu vois une domination McLaren là sur la fin de saison totale comme ça ?
J'ai l'impression que Norris, tu vois là en début d'année, il a mangé la feuille plusieurs fois. Il fait quand même un beau Grand Prix hier. Si on considère que le départ c'est plus le système dont parlait Jean-Luc plus que son talent, ça veut dire quand même que son Grand Prix il est parfait. Donc ça veut peut-être dire qu'il s'est enfin mis au diapason, qu'il a enfin peut-être que c'est le gap de la voiture qui l'aide à passer ce palier, mais en tout cas, force est de constater qu'hier, c'est une victoire à la Verstappen il y a un an, donc ça peut aussi dérouler. Après, je ne suis pas devin, mais je te dis, on peut aussi se retrouver à être hyper excité pour le championnat et en même temps à avoir des courses avec un gars qui a un demi-tour d'avance et qui double le dixième, qui met un drapeau bleu au dixième à la mi-course, quoi.
Ouais, mais on a été trop bien habitué aussi avec cette saison-là. 7 vainqueurs différents de Grand Prix. Franchement, on a l'impression que tous les week-ends, il y a un nouveau pilote qui va gagner. Paul, c'est son week-end le plus abouti à Norris, de loin. Et surtout, ça traduit la domination des McLaren. Il y a un confrère de l'équipe qui écrivait un papier ce matin, qui faisait le retour du Grand Prix, qui disait que pour voir une McLaren dominer avec plus de 20 secondes d'avance sur un Grand Prix, il fallait remonter à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait Jean-Luc. C'est-à-dire Ayrton Senna, Alain Prost, voilà. Non mais ça fait 40 piges qu'on a pas vu ça. C'est dire la perf de McLaren et de Norris, hein, Paul.
Impressionnant. Comme le rappelait Louis, c'est vrai que c'est un week-end à la Verstappen, signé tout simplement de la part de Lando Norris. Alors pour ce qui est de l'intérêt du championnat, moi je pense peut-être qu'il faudra se tourner vers le classement du championnat constructeur, hein, championnat du monde des constructeurs, où là McLaren n'a que 30 points de retard. Tu le précisais, Nico, en
ça va être excitant,
podcast. Parce que là, évidemment, et Lando Norris et Oscar Piastri sont capables de gagner. Ils auraient même peut-être hier dû faire 1 et 2 si la stratégie McLaren avait mieux fonctionné. Parce qu'au niveau du classement des pilotes, quand même si Verstappen aujourd'hui est relégué à une vingtaine de secondes, il a quand même géré de main de maître. Hein, lui, le triple champion du monde sortant, il termine deuxième, il marque encore de gros points. Il faudrait vraiment un concours de circonstances très très heureux pour voir Norris champion du monde. Alors, on a envie évidemment de se projeter sur la suite du championnat. Ce sera à Monza le week-end prochain pour le prochain Grand Prix. Mais même si les McLaren sont aujourd'hui au-dessus, pour ma part, je pense quand même que Max Verstappen reste lui aussi quand même tout en haut de l'affiche, malgré une Red Bull qui marche moins bien. Donc suspense relancé, oui et non. Peut-être au niveau des constructeurs, au niveau des pilotes, j'y mettrai quand même un certain bémol.
Oh, tu nous fais une réponse de Normand là, à la Gasly Ocon.
Ouais, moi je le rejoins, oui. je le rejoins, mais juste sur les constructeurs, pour pas te faire un truc de Normand, je vais te dire, pour moi sur les constructeurs c'est fait. McLaren va être champion constructeur. Voilà, ça c'est pas.
On est là.
Ça c'est pas normal.
Alors bon, comme il faut qu'il y ait débat, comme il faut qu'il y ait débat, Louis, je vais faire exprès hein, de prendre le contre-pied. Je vais dire ça dépend. Alors là,
ah bah oui.
Marrer, ça dépend pas de Norris, ça dépend pas de Verstappen,
ça dépend
de Piastri et de Pérez. Et voilà.
Et oui.
Donc ça veut dire que si Pérez se remet aux affaires, comme il le peut quand même, hein, et là il s'est un peu remis dans le coup, c'est-à-dire que s'il parvient à challenger Piastri et à le devancer, eh ben c'est pas joué. Mmh. Voilà. Mmh.
mais moi, Jean-Luc, j'ai l'impression, parce qu'on dit oui, Verstappen, il peut gérer, et on va pas vendre du rêve, 70 points, c'est encore colossal comme avance, bien sûr qu'il peut le faire, mais on a la sensation que Red Bull. Et dans l'urgence, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, et qui ne peut pas gérer tant que ça, en fait, Verstappen, quand tu vois ça, l'état de sa monoplace et surtout l'avancée de la concurrence.
Ah ben, moi je te confirme qu'il gère pas, il est à la rage totale. Là, son tour de qualif, là, il a été bluffé aussi parce qu'il lui colle quand même 3 dixièmes et demi. C'est pas rien, hein, sur un tracé où il avait signé l'épaule régulièrement, etc. Bon, en plus, on peut pas lui reprocher grand chose parce que Verstappen, il a été beaucoup plus vite que l'an dernier, hein, la pole en 1:10.029. Donc, il s'est vraiment arraché. Je veux dire, le talent est là, il fait ce qu'il peut avec le matériel dont il dispose. Mais la McLaren, bon. Encore une fois, Lando Norris est un excellent pilote, mais et il progresse à pas de géant, parce que là aussi, il y a deux options. Hein. On progresse beaucoup avec une mauvaise voiture, parce qu'il faut en tirer le meilleur et ceci, cela. Mais enfin, on progresse quand même sacrément mieux avec une bonne, parce que là, bah, tu peux te concentrer sur ton pilotage. C'est ce qu'a dit Norris. Il s'est régalé. Là, et quand il a vu que Verstappen ne partait pas et qu'il allait revenir et qu'il allait finir par le goinfrer quand il voulait, mm-hmm. bah, c'est un régal absolu. Puis après, il a bâti son avance. J'allais presque dire... un peu jeune, presque trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Moi, je me demande si, à sa place, j'aurais pas fait un peu moins volontairement pour pas montrer à quel point la McLaren et lui-même étaient dominateurs et dominatrices. Voilà.
Ouais, cacher un petit peu son jeu, quoi, pour pas affoler la concurrence. Il y a quand même un truc aussi qui est symbolique, les gars. C'est quand même voir Verstappen se prendre une tatane comme ça dans le crâne chez lui. À la maison, devant ses fans, devant lesquels il a jamais perdu. Louis, le symbole, il est très fort. Hein.
Ouais, jamais perdu, toujours la pole depuis le retour en F1. Et là, ouais, c'est ça, c'est le symbole est très fort. C'est exactement ça, Nico, parce que bah, il est chez lui à la maison, là où il est invaincu. C'est l'homme invincible depuis 2 ans. Et là, il tombe, et puis il tombe, mais alors d'une violence, 20 secondes. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. En plus, sur un Grand Prix, sur un circuit qui peut parfois et pas forcément... hyper excitant, et en fait hier ça l'était quand même à plusieurs égards. Et donc Verstappen, bah là, c'est peut-être c'est peut-être le début de la fin, tu vois. Moi, je te dis vraiment, on sent que tout ce qui se passe mal chez Red Bull en interne depuis quelques mois est en train d'être répercuté sur la piste, et là ils sont clairement derrière. Et donc bon, bah comme disait Paul, je pense que il a raison, Verstappen est quand même le favori encore aujourd'hui pour ce titre. Mais alors le prochain, clairement plus à date, comme on dit dans les grandes entreprises. Mais
vous savez ce qu'on va faire ? On va se faire un tour de table, on va se faire un tour de micro. Je vais vous poser la question, Norris sera-t-il champion du monde à la fin de la saison ? Jean-Luc ?
Non.
Paul ?
Non.
Louis ?
Bah, je suis obligé de dire oui, du coup.
Ah,
il a joué, Louis.
Et du coup, je lance le deuxième tour.
J'ai mis 0 euro, je peux dire oui.
Ouais, c'est ça, mais tu mises pas ton argent.
Non.
Deuxième tour de table, McLaren va-t-elle remporter le titre constructeur, Paul ?
Ah bah oui, parce que il n'y a plus qu'un seul pilote hein, chez Red Bull, parce que Sergio Pérez vient de signer sa 10e course sans podium. Pour une équipe qui est quand même championne du monde en titre et constructeur et des pilotes, ça la fout mal, passez-moi l'expression.
Mmh. Donc, ouais. Jean-Luc et...
Ouais, je pense aussi, parce qu'effectivement, l'écart n'est pas suffisant. Et puis, bon, on l'a suffisamment évoqué, il y a deux pilotes qui marquent des gros points. Bon, la Pérez est revenue un peu dans le coup, et bon, il est 39 secondes, hein, on va considérer que c'est pas... Mais enfin, Piastri est nettement devant. Je pense qu'intrinsèquement, Piastri est plus rapide, et je l'ai dit, c'est les deuxièmes pilotes qui vont faire la différence hein, au championnat constructeur. Donc, je pense que oui, McLaren a les cartes là. Alors, il y a un élément, si je peux me permettre là aussi, d'introduire, c'est l'élément fiabilité mécanique et changement. Et là, à moins que vous ayez voyez tous les tableaux avec les 200 000 pièces et les 200 000 changements. Non, mais dans les 9 Grands Prix qui va venir, vous voulez voir, vous savez, mon expression favorite, c'est on fait la grille par l'arrière. Eh bien, on va voir qui va être obligé de changer quoi en termes de boîte de vitesse, de ce qu'on veut, et, puisqu'il y a 6 éléments référencés. Et donc ça, c'est une des clés aussi, la fiabilité, la manière dont on va travailler ça. Et c'est paradoxal, c'est pas très sportif et pas très rigolo, mais ça va jouer un rôle.
Oui, bien sûr, ça va compter.
Et Nico, Louis... si tu peux me permettre vraiment
juste une
toute petite seconde pour revenir quand même sur le dépassement de Lando Norris sur Max Verstappen. On en parlait avant le début de l'émission. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même eu la sensation, en regardant Lando Norris déposer Max Verstappen, que le Néerlandais rendait les armes. On a vu depuis maintenant 3 saisons, que ce soit face à Lewis Hamilton, que ce soit face à Charles Leclerc, que Max Verstappen ne lâchait rien. Là, c'était le lâcher prise. Hein. Il ne pouvait pas lutter. Il n'a pas cherché à lutter alors qu'il est volué chez lui à domicile, tout le monde l'a rappelé, avec plus de 350 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end. Il était porté par ses supporters et il n'a pas essayé d'aller tutoyer les sommets. Il a lâché prise. Donc pour moi, c'est quand même un revirement de situation à l'occasion donc de cette course de Zandvoort.
Bah parce que c'est très certainement une des premières fois où il sent que avec sa machine, il peut rien faire en fait, qu'il peut pas se battre à la régulière, donc qu'il doit faire rentrer des points et voilà. Qu'il sait qu'il ne pourra pas faire mieux que Norris. Louis, cette fois, tu peux miser ton argent pour les constructeurs. Vas-y.
Je mets 5 euros là. Parce que...
Monsieur a bien bossé, sois raisonnable.
J'ai fait quelques pitchs cet été, je peux me permettre. Non, évidemment. La question est toute simple. Vous avez plus confiance en Perez ou Piastri aujourd'hui? Moi, clairement, je dis Piastri. Donc, à 30 points d'écart, ça va très vite. Donc pour moi c'est papaya pour les constructeurs.
Elle est quand même, alors on se refera un petit épisode parce qu'il y a Monza la semaine prochaine et après on aura des semaines un peu creuses où on pourra faire des épisodes magazine, mais cette saison elle est quand même incroyable hein. Entre les différents vainqueurs de Grand Prix, le championnat qui a été relancé plein de fois, franchement avant la nouvelle réglementation on se régale vraiment. Jean-Luc, il y a aussi une belle surprise et franchement on s'y attendait pas quand on a vu le début du week-end à Zandvoort. Bon, il y a eu des conditions météo très changeantes aussi, alors que la course a été sèche, belle météo, ça a aussi pas mal bousculé les choses, mais on s'attendait pas à voir Charles Leclerc sur le podium. Donc Paul le disait tout à l'heure, c'est vrai que du côté de McLaren et du côté de Piastri, il y a très certainement eu une erreur stratégique faite, sinon Piastri aurait terminé 3e. Mais malgré tout, Charles, il a fait une superbe course avec des moyens qui n'étaient pas au top hein, côté Ferrari.
Ben, je vais te faire un aveu, lui aussi, il l'a dit d'ailleurs, hein, là aussi, très franchement, il a dit je ne m'attendais pas à terminer 3e, surtout en partant 6e, il y avait quand même des calibres devant lui, hein, il y avait quand même Perez justement, on en parlait, il y avait Russell qui avait l'air quand même extrêmement performant, et puis il y avait Piastri, ça fait quand même du monde. Donc il a fallu d'abord, et je mets toujours le pilote en exergue, un magnifique pilotage, et lui aussi quand il commet des erreurs, il le dit de sa part, donc il a vraiment tout fait parfaitement bien, l'équipe également, l'a arrêté exactement comme il fallait. Donc Leclerc, on l'a arrêté au 25e tour. Pour mémoire, on avait arrêté donc Russell au 26e, Verstappen au 28e, au 29e. Donc il a fait un très bel undercut. Et Piastri, on l'a arrêté qu'au 34e et Perez au 30e. Donc il a fait le boulot remarquablement bien. C'était chaud hein, quand même. À un moment, j'ai pensé que Oscar Piastri, allait parvenir à prendre le meilleur également. Mais non, il est revenu dans la bulle. Il est revenu dans la seconde et puis il n'est pas parvenu à passer. Après il y a eu les dépassements d'attardés qui ont aidé naturellement, ou plutôt des pilotes retardataires pour utiliser le bon mot, à qui on a pris un tour. Parce que ça fait toujours un peu bizarre.
Il y a peut-être 2-3 attardés
je suis d'accord, mais on va pas dire les noms ici. Dans le tas il y en avait, les pilotes retardataires à qui on a pris un tour, donc ça donne un petit coup de DRS hein. Ça c'est toujours sympa quand on est poursuivi, donc c'est ça qui l'a sauvé je pense. Et puis tant mieux. Alors je vais vous faire une confidence les gars, parce que je suis vraiment dans le secret. Vous savez que je suis très ami avec Charles et très ami avec Fred Vasseur. Les Ferrari, elles vont marcher comme des balles à Monza, ça je peux vous le dire.
Ouais. Bah, y a des évolutions qui arrivent.
Non, c'est pour rigoler. Hein, mais...
ça, vraiment... mais
il disait, à Monza, les Ferrari, c'est toujours des balles. Alors,
Oui. En plus, je crois qu'il y a des évolutions qui arrivent hein, la semaine prochaine. Ouais. C'est ce que disait Fred Vasseur.
Bah, bien sûr.
On va l'écouter, tiens, Charles Leclerc. Ce que tu disais, Jean-Luc, il était vraiment content de cette 3e place.
Je ne suis pas souvent content avec une troisième place, ni avec une deuxième. Normalement, c'est que la première qui me satisfait pleinement. Mais après un week-end aussi difficile que celui-là, avec la perfo qui manquait énormément jusqu'à la course aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir et ça a été une très bonne surprise pour tout le team. Parce que Carlos aussi était très rapide. Donc 3 et 5 pour le team, c'est un bon résultat pour ce week-end.
Voilà Charles Leclerc avec nos confrères de Canal+. Et ça, Louis, ça peut compter aussi. Parce que si Ferrari retrouve un peu de perf, ça peut être de potentiels alliés à Norris dans la quête d'un titre constructeur pour McLaren ou même pour le titre pilote, hein, parce que ça va venir chatouiller Verstappen et ça peut vraiment faire une sorte d'équipe qui va venir abattre le monstre Red Bull, quoi.
Ouais, ça peut être un peu l'arbitre comme on peut voir en foot en fin de championnat quand tu joues un relégable ou un truc comme ça, ou avec une équipe qui a plus rien à jouer et qui finalement devient l'arbitre. C'est un peu ce que va faire Ferrari, parce que eux, bon, ils ont toujours quelque chose à jouer. Tu as toujours à peu près quelque chose à jouer en F1, mais on est quand même un petit peu déçus par rapport aux promesses du début de saison. On s'attendait à mieux, clairement. Et là, finalement, quand on s'attend à moins bien, ils font mieux. Enfin, de toute façon, on a toujours du mal à les suivre. Mais en cette fin de saison, ça peut être la bonne surprise de les revoir. Et comme dit Jean-Luc, de toute façon, à Monza, ça doit être, enfin, c'est inscrit qu'il faut des modifs. Il te faut un nouveau package parce qu'il faut que tu arrives au top chez toi. Et on espère voir une super course des rouges. Et Leclerc il a bien fini avant l'été, il reprend bien. On peut espérer une bonne fin de saison, mais c'est vrai que je pense quand même à la fin, quand il faudra faire un bilan de saison, on sera un peu déçu.
Ouais, il a été cyclique pour l'instant, Charles Leclerc. Il a 103 points de Verstappen au championnat du monde. Mais on le disait, Ferrari, 64 points au championnat constructeur. Il y a peut-être quelque chose aussi à jouer potentiellement. Mais c'est vrai qu'il faudra faire un bilan de la saison de Charles Leclerc et de la Scuderia. De toute manière, on aura le temps de débriefer tout ça en fin de saison. Paul, un mot sur les Mercedes aussi. On en parlait beaucoup ces dernières semaines. Ils ont été très bons à partir du moment où moi j'ai arrêté le paddock RMC. Donc du coup, j'en ai pas trop parler avec vous, mais, ouais. Mais c'est vrai que je vous ai écouté, franchement on a retrouvé de l'allant du côté Mercedes, que ce soit pour Russell, que ce soit pour Lewis Hamilton, et là pour le coup à Zandvoort, ils ont marqué le pas, hein.
Ah ben, ils ont complètement marqué le pas, sans arriver à trouver une explication. On a vu George Russell déclarer qu'il avait été content sur les 500 premiers mètres de sa course hier aux Pays-Bas, lui qui avait quand même remporté avant d'être déclassé le Grand Prix de Spa-Francorchamps, qui avait vu finalement la victoire de Lewis Hamilton, ce même Hamilton qui avait quand même gagné peut-être l'un des plus beaux Grands Prix de la saison à Silverstone. Et là, eh bien, les Mercedes se retrouvent largués en qualification, 7 et 8 au final hier lors de ce Grand Prix. Et d'ailleurs, un petit peu comme Ferrari, hein, Charles Leclerc n'arrivait pas à expliquer la si bonne performance hier de sa Ferrari qui a terminé sur le podium. Et bien là, dans une sorte de no man's land, les Mercedes sont complètement perdus. Les reverra-t-on performantes dans une semaine à Monza? On peut se poser la question, mais c'est vrai que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Formule 1 de Toto Wolff, effectivement.
Mais c'est assez fou ça, Jean-Luc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'ai l'impression que cette saison, que ce soit dans la gagne ou dans l'échec, t'as énormément de pilotes, de team managers qui viennent face aux médias en disant bah, on sait pas pourquoi on a été bon ce week-end et on sait pas pourquoi on a été mauvais. J'ai l'impression qu'il y a une part d'imprévu dans cette saison de Formule 1 qu'on a peut-être pas connue avant, Jean-Luc, non?
Mais complètement, mais c'est ce que j'évoquais, tu sais, tout à l'heure, hein, on en a parlé, puis on en a parlé effectivement hors antenne, c'est exactement ça. Et moi, ça me désole, franchement, que des équipes aussi performantes que celle-là, avec des multiples capteurs, avec des centaines d'ingénieurs, soient incapables d'expliquer leur niveau de performance et surtout incapables de prévoir. La personne peut te dire, ah bon, je rigolais tout à l'heure avec les Ferrari rapides à Monza parce que c'est de tradition, mais à part ça, personne peut te dire, à la limite même pas McLaren, qui vont être aussi dominateurs, ils l'ont dit. Hein. On ne sait pas si on sera aussi bon à Monza, qui est un circuit, on le rappelle, de très haute vitesse, avec très peu d'appui aéro, donc avec des lames de rasoir littéralement à l'arrière. Donc voilà, il faut une machine équilibrée mécaniquement, j'allais dire, parce que aéro, il n'y a rien, il n'y a quasiment pas d'appui, et les pilotes se débrouillent dans les courbes rapides, il y en a quand même deux ou trois à négocier. Donc effectivement, c'est la clé du système. Alors pour revenir sur Mercedes, puisque bah, tu l'expliquais en préambule, Nico, on n'a pas eu... malheureusement de Paddock RMC, mais on va se rattraper un petit peu maintenant. Moi, il y a un truc, il y a une scène qui m'a absolument désolé à l'arrivée de ce Grand Prix. Je vais mettre un gros caillou dans le jardin de notre ami Toto. C'est qu'au moment où on célébrait le doublé Mercedes, donc la victoire de Russell sur le terrain, hein, après, bon, il lui manquait 1,5 kg, soi-disant, parce que les pneus étaient usés. Bon, moi, je veux bien tout ça. C'est des explications de guignol. Voilà, j'y vais carrément. Mais bon, peu importe. Donc, on le déclasse et du coup, c'est Hamilton qui gagne. Et Toto, il est en train de passer des SMS au fond du stand. Vous l'avez vu, cette image ?
Ouais.
Moi, ça m'a profondément choqué. Je ne crois pas me rappeler avoir jamais vu, lors d'une victoire Mercedes, Toto Wolff, qui ne soit pas en bas du podium, en train de féliciter ses pilotes, ses ingénieurs et au sein de son équipe, a fortiori un doublé. Donc, alors, où il s'en fout totalement de George Russell, ce qui est très possible. Hein. J'ai une petite idée là-dessus, c'est pour faire un peu de provoque, hein, mais je pense qu'il doit le sentir, George. Il ne le considère pas véritablement comme un leader. Et tant qu'Hamilton est là, contrairement à ce que certains ont pu dire en début de saison, bah, c'est tout pour Hamilton. Et puis voilà. Et puis je te dis, moi, ça m'a choqué. Et le pauvre Russell, en plus, il prend la claque derrière. Ah bah, t'es déclassé, mon gars. Bah oui, ta voiture n'était pas assez lourde. Comme il disait, j'aurais dû manger un steak. Enfin, c'est ridicule, quoi. Tout ça est grotesque. Donc, oui, je pense que la tête de Mercedes, elle part un peu en godille également de temps en temps. Voilà.
Mais t'as l'impression, Louis, on a l'impression tout de même que Toto, il fait un peu n'importe quoi là cette saison. Sur sa com du début de saison, toutes les rumeurs autour de Verstappen, qui voilà, il n'arrive pas à garder concerné un mec comme Russell. Là, il y a l'attitude après ce doublé juste avant la pause estivale. C'est quand même très particulier, hein. Et du coup, conséquence. Bah là, tu fais 7 et 8 sur cette course-là. Alors, bien sûr que mécaniquement, ils étaient peut-être moins forts que les autres. Mais tu sens que les pilotes, ils sont pas à fond pour leur Toto, quoi. Tu vois, ils roulent pas à fond pour Toto.
Y a, pour moi, il y a un Toto avant Abu Dhabi 2021 et un Toto après. Évidemment. Et c'est plus le même. Ça sera plus jamais le même. Je pense que la claque, le coup de poignard qu'il a pris ce jour-là à tous les niveaux, la chute du piédestal a été d'une violence et il s'en remet pas. Et depuis, la sérénité qu'il transmettait à tous, que ça soit même aux médias. Moi, je me souviens dans ses interviews, je me disais punaise, mais j'avoue que ce mec, il est toujours clean, il fait pas une erreur de code, il dégage un truc. Tu te dis, je comprends que les mecs, ils disent allez, on est derrière Toto à fond. Et maintenant, on dirait un gars un peu qui s'énerve un peu vite, qui a toujours des cernes plus grosses que les miennes, donc c'est déjà fort. et tu te dis ouais, c'est plus le même. Enfin, t'as vraiment l'impression du gars qui a pris un KO. C'est le boxeur qui a pris un KO un jour. Bah, tu sais, on dit Moscato, il dit ça souvent. Le gars qui a pris un KO une fois, il a plus de menton après. Et bah, t'as l'impression que Toto, c'est ça. Il a pris un KO et depuis, bah, c'est plus le même. Et donc, il y a plus de sérénité à Mercedes. Et c'est exactement ce que tu racontais, Nico. On voit des choses qui sont difficilement analysables et tu te dis bon, tu sais pas où ils vont et tu sais pas comment ils y vont. Et voilà.
Juste un petit mot, si vous permettez, avant que évidemment Paul s'exprime. Moi, le tournant, je le mets avant. C'était carrément l'agression, parce que maintenant on peut le dire vraiment, l'agression d'Hamilton sur Verstappen, effectivement à Silverstone, qui aurait pu avoir des conséquences énormes. Et là, il a dû l'avouer aussi. Ou bah après, soi-disant, il courtise Verstappen. On en revient aux errances dont tu parlais, Louis. Mmh. Et puis là, il oublie de l'appeler. Soi-disant, il a des bons rapports, alors que l'autre est à l'hôpital et on ne sait pas ce qu'il a. Hein. Mmh. Le pilote, il a peut-être un trauma crânien, sa saison est peut-être foutue, etc. Donc là aussi, il se comporte très mal parce qu'en fait, il veut passer. Enfin, il a voulu. Là aussi, Netflix l'a rendu fou, lui.
Ouais,
on est d'accord, je l'ai déjà dit. Ça l'a rendu fou.
Bah oui,
à un moment, il faut se comporter. Je pense que c'est un type bien, fondamentalement. Il l'a démontré pendant des années. Puis tu sais, c'est plus facile d'être généreux, jovial et de bonne humeur quand tu gagnes
tout. Tout le monde, évidemment. Bah, voilà. Évidemment,
vous avez la sensation que le personnage un peu qui s'est créé a pris le pas sur la fonction et sur son job.
Ah ben ouais, moi complètement. Et puis pour encore une fois corroborer les propos de Louis et de Jean-Luc, pour revenir sur le Grand Prix de Spa-Francorchamps, lorsqu'on le voit quand même dans son box avec son portable, son protégé restera toujours Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, pendant la course, messieurs, rappelez-vous, avait dit moi aussi je voulais une stratégie à un arrêt. Et avec cette stratégie-là, eh bien Lewis Hamilton aurait peut-être franchi le drapeau à damier devant George Russell. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on avait vu, la moue plus que dubitative de Toto Wolff à l'arrivée, qui ne célébrait pas la victoire de Russell.
Ah oui.
et qui plus est le doublé de Mercedes. Cache ta joie. Ouais, complètement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est dans un rôle. Toto Wolff, ce n'est plus le Toto que l'on a pu connaître effectivement lors des années triomphantes de Lewis Hamilton au volant de cette Mercedes.
Ouais.
Clairement.
C'est Anakin. Il passe du côté obscur de la force.
C'est ça. Toto est passé du côté obscur. C'est terrible. Les gars, on va parler de Pierre Gasly aussi. 9e. Louis, qui pour le coup fait une très belle course. Bon, il maximise une nouvelle fois le potentiel de sa voiture. On va l'écouter, tiens, très rapidement au micro de Canal.
Ça fait plaisir de reprendre après l'été avec une belle course. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Très bon départ. Je savais que généralement à l'extérieur, si on a la place, on arrive à garder pas mal de vitesse, et j'avais déjà ça en tête et j'ai réussi à trouver l'espace qu'il fallait. Et après, je pense que ça nous a vraiment mis dans une bonne position pour bien gérer toute la course, pour bien gérer les pneus. Il y a eu des belles bagarres avec Lewis, Carlos, Fernando tout au long de la course, donc c'était plutôt fun dans la voiture. Et voilà, dans l'ensemble, je me suis bien senti, donc c'est satisfaisant.
Bon, il a été spectaculaire, hein, Pierre, voilà, qui se confie au micro de Canal, Louis. C'est bon, bah, voilà, c'est une course à l'Alpine. Ils arrivent à faire des choses. Des fois, tu comprends pas. Une fois, c'est Gasly, une fois, c'est Ocon. Mmh. C'est le talent des pilotes, c'est les opportunités de course aussi qui font qu'ils arrivent à grappiller des petits points par-ci par-là.
Ouais, alors week-end, il est encore étrange parce que donc ils arrivent aussi avec des évolutions. Apparemment, les deux voitures en profitent et il y en a un qui est incapable de sortir de Q1 et puis vraiment. Aucune chance, et puis l'autre qui fait Q3 et derrière un super grand prix, donc c'est toujours assez bizarre. Encore une fois, on en revient à ce que Jean-Luc dit, et Paul aussi, on peut plus rien analyser en fait. Même eux à l'intérieur des écuries ne savent pas ce que ça va donner le lendemain. Mais pour Pierre, moi je suis super content, juste tout simplement, tu vois, il est dans une Alpine. On sait finalement, les amis, que bon, il peut pas attendre Monts et Merveilles d'un grand prix. Mais hier, on s'est éclaté à regarder sa course. Lui, il le dit, il s'est éclaté. Et je pense que rien que ça, en fait, il faut le prendre. Ça fait plaisir. Il fait un super départ. Et il fait ce fameux dépassement. Je me suis levé. Ça faisait un bail que je ne m'étais pas levé de mon canapé sur un truc comme ça. Où vraiment, tu vois les quatre voitures de front comme ça. Lui qui passe sur l'extérieur. Magnussen qui fait du Magnussen, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Et il prend vraiment l'extérieur. Il l'emmène. Il passe devant tout le monde d'un coup. Et en plus, ça le sauve un peu d'une stratégie. Jean-Luc, j'aimerais ton avis. Lui, là, il n'en dit aucun mot. Il dit qu'ils ont tout fait parfaitement, mais ils le font rentrer tard quand même. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire mieux. Il ressort très loin et heureusement qu'il y a finalement ce dépassement qu'il ramène tout de suite dixième et qui lui sauve son deuxième stint. Parce que sinon, s'il ne le fait pas et qu'il reste donc logiquement 12 ou 13, bon, tout de suite, on change de discours et c'est course anodine, mauvaise stratégie, au revoir, quoi.
Bah, tu as raison, Louis. Écoute, moi c'est pareil, j'ai trouvé cette scène absolument fantastique. Déjà, c'est rare qu'il y ait 5 F1 comme ça en bagarre. Je me suis retrouvé à Indianapolis, tu vois, avec le
Monty. Ouais, c'est exactement dit, ça, ouais.
Ça, c'est Indy. C'est génial, bah, tu vois, pourquoi j'adore aller 500 miles, évidemment. Ouais. C'est fabuleux, parce que là, tout peut arriver. Et puis, bah, c'est vraiment l'attaque des pilotes, là, tu vois, cette F1 un petit peu, parfois, aseptisée, tu vois, un peu trop clean, un peu trop calculatrice. Bah, là, on y va. Et puis, Pierre a démontré une très belle attaque. Alors, tu as raison, en termes de stratégie, bah, j'ai ça sous les yeux. On a arrêté les deux Aston devant, bah, fallait évidemment tenter l'undercut. Alors, bon, heureusement, avec le talent de Pierre, il avait quand même une monoplace qui était meilleure que les Aston, c'est parfaitement clair. Donc, c'est ce que j'allais dire. Il récupère finalement ce qui lui était dû. Parce que derrière, on lui passe devant, hein, faut quand même pas l'oublier. Sainz, pas qu'un peu. Hamilton également. Donc, il récupère finalement ce qu'il avait. Il se retrouve 9e. C'est la logique. Tant mieux. C'est un bon résultat pour lui, pour l'équipe. Ça fait toujours plaisir. Mais comme tu le dis aussi, chez Alpine. Alors, je vais oser. Tu sais, je suis là pour. Moi, je suis le poil à gratter. Hein. C'est bizarre quand même que ce soit celle de Pierre qui marche bien et celle de Esteban qui marche pas bien. Bon, voilà. J'ai rien dit. Je remarque.
Mais t'es rabat-joie, Jean-Luc. C'est comme ça.
Mais non. Écoute, on est là pour dire
sport,
les choses.
Enfin.
Ne me dis pas que personne ne l'a pensé. Ouais, ne me dites pas, je ne vous crois pas.
On y pense très fort. On y pense très fort.
Et peut-être que quand il sort un peu la calache là, Esteban, lors de son interview du samedi, où il a des mots très durs.
Sans le truc.
Je pense que c'est aussi en mode.
C'est sûr.
C'est bizarre. Et d'ailleurs, il leur dit là hier, il était apaisé. Mais il redit bien, c'est une très bonne chose, parce qu'au moins il y a une bonne chose, c'est que de l'autre côté du garage, ils ont su faire les choses. Voilà. Et tu l'entends au troisième degré, quoi.
Ouais, c'est clair. Et est-ce que les amis, vous avez entendu la première conférence de presse de notre Flavio Briatore, Paul? qui a smaté tout le monde le samedi. Alors il a smaté tout le monde.
Il a fait les brillators.
Non, mais j'ai ces déclats. Je crois que le problème d'Alpine, bah, bien évidemment, c'est qu'il n'y a eu que des mauvais managers. Bah, je pense évidemment que la liste des mauvais managers est assez longue, mais par contre, nous n'avons pas de liste pour les bons managers.
Si, il y a lui.
Il se pose là, lui. Hein, là, et la Commedia dell'arte, il connaît aussi, hein, Flavio Briatore, même non, s'il a brillé dans le passé. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire table rase sur le passé. On verra bien dans l'avenir ce qu'est capable de faire cette écurie-là. Mais c'est vrai que, comme le rappelait Pierre Gasly et comme l'a rappelé, rappelez-vous, messieurs, hein, Esteban Ocon, lorsque les Alpines ont terminé 9 et 10 de quelques Grands Prix, elles sont à leur place. Hein, elles ne peuvent pas jouer le top 8 à la régulière. C'est pour ça qu'on peut quand même se satisfaire aujourd'hui de voir Pierre Gasly, qui reste un excellent pilote, tout comme Esteban Ocon, venir glaner les deux points de la 9e place. Le big boss italien, le manager, c'est une autre histoire et je m'arrêterai là.
Ouais, alors qu'il y a eu l'entrée, bah aussi du coup ils ont changé beaucoup de choses. Oliver Hawkes, le directeur de l'écurie Alpine.
36 ans, t'as quel âge, Nico?
Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai bientôt 34. Ouais.
Ouais, voilà.
T'as raison, mais je vais peut-être envoyer un CV.
Eh oui.
J'y ai pas pensé. Faut peut-être que j'envoie un CV.
Ouais.
Non, mais voilà, ils sont en train de changer énormément de choses. Et bon, Jean-Luc, Briatore, il fait du Briatore, quoi. Hein, c'est de la parlotte.
Il est là pour ça, de toute façon, il est là pour faire passer la décision qui est gravissime. Et là aussi, on l'a déjà évoqué, hein, de la disparition de l'équipe moteur de Viry-Châtillon. Pour moi, c'est un drame et je pèse mes mots. C'est un enterrement de première classe. Et donc, on a pris Briatore pour faire passer ça. Alors lui, il dit, c'est pas lui, c'est le haut management. Enfin bon, tout le monde, comme toujours, c'est le rideau de fumée. Écoute, il a été décidé de faire des économies. Moi, je dis les mots qui conviennent, parce qu'évidemment, bien sûr, les motoristes de Viry-Châtillon sont devenus très mauvais. Hein. Bien sûr que l'époque là aussi de mon ami Denis Chevrier ou d'autres évidemment avant lui est oublié. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'effectivement on n'a peut-être pas les moyens de travailler comme il fallait. Les règlements, encore une fois, ont été tellement aberrants, je le dis aussi, que certains s'en sortent mieux que d'autres, c'est toujours comme ça, mais ils sont pas devenus mauvais. Donc les enterrer en disant maintenant on n'est pas capable de faire un moteur, on va acheter un moteur Mercedes, c'est l'enterrement de la Formule 1 en France, voilà, il faut le dire, parce que l'écurie Alpine elle est à Enstone en Grande-Bretagne, et la majorité des intervenants, c'est des ingénieurs britanniques. Donc d'ailleurs, maintenant, le patron de l'équipe, c'est un Britannique. Donc, comme
c'est un Britannique. Et Louis, le deuxième pilote aux côtés de Pierre Gasly, est connu. Ça y est, ça a été officialisé. Ce ne sera pas un Français. Hein. Pendant un temps, on pouvait se dire peut-être Victor Martins, quelqu'un de la filière alpine, un Français. Ce ne sera pas un Français.
Non, Jack Doohan, quand on regarde un peu son début de carrière, on ne peut clairement pas dire que c'est un crack. Donc ça doit se trouver ailleurs au niveau des arguments, au niveau de la réflexion. Moi j'aurais plus vu dans le giron alpine comme ça, quitte à trouver quelqu'un qui n'est pas un crack. Il y a Mick Schumacher qui a de l'expérience et qui est un peu papier glacé, quoi, qui est un peu glamour de par.
Ouais, mais
de...
qui n'est pas un crack non plus, moi j'y vais carrément.
Oui, hein, oui, non, clairement, mais à pilote moyen.
C'est un bon pilote.
Peut-être, moi j'aurais peut-être pris celui qui te ramène, enfin je sais pas, un peu d'image, un peu de truc. Mais bon, je suis pas enthousiaste pour Jack Doohan, mais en même temps j'attends de voir et je lui souhaite le meilleur au volant de l'Alpine. Mais bon, l'attelage pilote moyen, voiture moyenne. C'est pas non plus très excitant.
T'as vu, ils ont reporté maintenant la date à 2027. On attend de dormir.
Ouais.
Là, faudra nous attendre en 2027. Mettez 2030, les gars, comme ça on sera tranquille.
Flavio, il nous a dit il y a quelques podiums en 2027. Ouais. On sera au 457e épisode du paddock RMC. Ça va être exceptionnel.
C'est dans 3 ou 4 ans, je sais pas très bien compter. Moi.
Cyril Abitboul nous avait dit qu'il serait prêt en 2018. Donc c'est bon, on a que 10 ans de retard.
Tout va bien.
Les gars, merci beaucoup. On a débriefé ce Grand Prix de Zandvoort. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Monza en Italie, le temple de la vitesse. On va se régaler. Je vous rappelle, le paddock RMC, c'est le retour pour la fin de saison, les 9 dernières courses. Tous les lundis, vous avez un épisode 100% Formule 1. On est le seul podcast qui parle de F1 aussi régulièrement. Donc abonnez-vous.
Et
une petite
bien.
Note. Et puis on vous dit à la semaine pro. Bye bye.
Ciao.
Salut les gars.
Le paddock RMC.